messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. De la tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler de voix off et de podcast. On se retrouve juste après le générique. Ce matin, pour m'accompagner, une invitée exceptionnelle. Je suis en compagnie d'Émilie Ramé. Émilie Ramé, elle est actrice, voix off et également voix de pub. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Alors, je ne sais pas si je vais te vouvoyer ou te tutoyer.
Bah, tutoie-moi, ça fait un peu bizarre. L'historique.
Du coup, on a fait notre école quand on était plus jeune, le collège ensemble. Oui. Et voilà, toi, tu as été direction Pierre Dailly. Moi, j'étais Mireille Grenet.
Je suis à la Grenet derrière aussi.
Ah, tu as fait Grenet aussi.
Ah bah oui.
Et on va parler un petit peu de ta carrière et notamment de ta vocation aujourd'hui, puisqu'une vie, tu peux le remonter, tu peux, il n'y a pas de souci.
Ça
se sert absolument.
Voilà.
Une vie un peu particulière, tu as commencé dans la pub, puis aujourd'hui ta vie a un petit peu basculé pour plusieurs choses, notamment par ton métier, mais également par une découverte un peu extraordinaire dans ta vie. On va en parler au cours de cette émission. On fait un rapide retour sur ta carrière. Le début de ta carrière, c'est quoi? Dans quoi tu as commencé à bosser?
Alors, j'ai commencé à bosser, j'ai fait les études pour être directrice artistique en agence de pub. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps sur toutes les campagnes de pub de PMU, notamment, dans une grosse agence parisienne. Ça, c'est ce pourquoi j'ai étudié.
Donc, c'est quoi? Tu concevais, en fait, les publicités? C'est la conception visuelle? C'est quoi exactement?
Exactement. Donc, c'est trouver le concept de la publicité. Donc, le directeur artistique travaille avec le concepteur-rédacteur. On est en team. Ensemble, on trouve l'idée, le concept de la pub. Et moi, en tant que DA, je développais toute la partie visuelle et le rédac, toute la partie, enfin les mots. Et voilà.
Et comment ça se passe pour une réunion? Parce que des fois, on voit des pubs, on se dit, mais comment ils ont eu cette idée pourrie pour faire cette pub? C'est quoi? Il y a des lendemains de soirée, des apéros? C'est quoi un peu le concept de conception?
Alors, c'est pas la faute des créatifs, ok?
C'est la faute des clients?
C'est la faute des clients, oui. En fait, le client, ça dépend les agences et ça dépend les clients, mais bien souvent, le client a le dernier mot. Moi, par exemple, j'ai des souvenirs où je propose deux idées bien distinctes, A et B. A et B ne vont pas ensemble. Et le client veut A et B en même temps. Donc, on arrive avec des pubs. À la fin, on cède, en fait. Et voilà.
Alors, peut-être tous les auditeurs peuvent l'entendre, hein, puisque tu travailles sur la voix. Même aujourd'hui, là, ta façon de parler, ta façon de te mouvoir, toute ta voix, il y a une espèce de musicalité dans la voix. Comment tu as découvert ce talent de la voix et comment ça s'est passé un petit peu, le départ, la pub et ensuite la voix?
Bon, déjà, dès que j'ai commencé à travailler dans la pub, moi, j'ai tout de suite voulu faire des cours de théâtre. C'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas eu l'occasion. Et un jour, là où je travaillais, donc dans cette agence de pub, un rédacteur, un concepteur-rédacteur, est venu dans l'open space en demandant si quelqu'un était dispo pour poser sa voix sur une maquette radio, parce que le client avait besoin de se rendre compte de ce que ça rendait. Moi, j'étais dispo et j'avoue que j'avais très envie de le faire aussi. Et du coup, on a enregistré et l'ingé son, ce jour-là, m'a dit « Mais Émilie, c'est super !» Et moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et de fil en aiguille, les gens sont venus à moi pour enregistrer les maquettes. Jusqu'au jour où un de ces enregistrements s'est fait dans un studio externe à l'agence de pub. Et le producteur sur place m'a demandé de revenir le lendemain pour enregistrer ma première bande démo.
Donc en fait, ta première maquette, c'est pas toi qui as enregistré la publicité, ça a été enregistré par une autre actrice de voix off après?
Exactement, en fait, les maquettes, on n'en fait pas tout le temps dans les spots publicitaires, mais parfois, il y a des clients qui ont besoin de se rendre compte de ce que ça donne le texte porté, entre guillemets.
Ouais, depuis quelques temps maintenant, on peut utiliser l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des créations de jingles en intelligence artificielle, donc peut-être qu'on découvrira plus des voix par hasard, comme ça a été ton cas. Comment t'es venu dans la publicité? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la pub? Parce que c'est quand même un métier particulier. Souvent, on pense à Frédéric BD, 99 francs. C'est ça un peu la pub ou pas?
Alors, moi, j'ai toujours aimé les médias. J'ai d'abord été attirée par la radio. Et comme j'ai pas réussi à rentrer par cette porte, j'ai vu qu'en faisant des études de communication, je pouvais devenir créa. Et je pouvais m'infiltrer dans le monde de la publicité qui permet de travailler sur plusieurs médias différents, aussi bien le web, la télé, le cinéma que la radio. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Et j'avoue que j'ai un peu déchanté quand je suis arrivée sur mon premier lieu de travail. Je me suis rendu compte que c'était bien loin de mes rêves et qu'il y avait une réalité sur place par toutes les contraintes marketing, par les clients et compagnie qui faisait que mon étendue, ma créativité était bien souvent limitée en fait.
Ouais, limitée à ce que le client voulait, quoi.
Exactement.
T'as commencé à quel âge du coup à faire de la publicité ?
J'avais 24 ans par là.
Sortie de l'école, quoi, c'est ça ?
Ouais, sortie de l'école, ouais.
Et ensuite, comment t'as continué vers la voix ? Comment tu t'es professionnalisé ? Comment t'as quitté la pub pour rentrer dans la pub de la voix et puis dans la voix off ?
Alors, donc quand on m'a proposé donc d'enregistrer ma première bande démo, j'étais toujours chez Publicis, on peut le dire, c'est là où j'étais. Et pendant 2 ans et demi, j'envoyais ma bande démo à tout Paris et on commençait à me faire bosser. Donc moi, j'ai pas pris de vacances pendant 2 ans et demi. Je posais des demi-journées à droite à gauche pour aller enregistrer. Je me suis créé un compte auto-entrepreneur pour pouvoir facturer. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est plus possible. Mon métier est devenu alimentaire et la voix off, l'interprétation en fait théâtrale, mais même derrière un micro, l'interprétation derrière un micro, je sens que ça me parle, c'est moi. Il faut que je quitte tout. Et ça m'a fait peur parce que quitter un CDI, quand on a un loyer, des factures, enfin on a tout ça pour un métier qui tend à l'inconnu, entre guillemets, le saut dans le vide, être intermittent du spectacle et encore il faut y arriver, c'est vraiment, ça fait peur. Et voilà, je l'ai fait, j'ai tenté et je regrette absolument pas.
Comment sont rémunérées justement les voix off ? Là tu parlais d'intermittence du spectacle, donc vous avez des cachets, mais est-ce qu'il y a des, vous recevez des droits d'auteur sur les publicités ? Il y a des négociations qui sont faites pour être diffusées dans d'autres pays, dans d'autres pays francophones par exemple ?
Alors, tout est, y a des grilles tarifaires déjà, et y a des droits effectivement qui sont négociés en amont, donc on est payé bien souvent en cachet, sinon il y en a d'autres qui peuvent facturer, ceux qui ne sont pas intermittents du spectacle. Et les droits en général sont négociés tout de suite sur 1 an, 2 voire plus, en national ou à l'international. C'est pas, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à chaque diffusion en fait où on touche comme pour la musique, et c'est pas du tout le cas.
Malheureusement.
Bon, ça dépend.
En tout cas, quand on regarde la télé aujourd'hui, on t'entend dans de nombreuses pubs.
Ouais, c'est vrai.
On commence à...
Moi, j'ai pas la télé, et bien souvent, on me dit « Ah, tu passes dans cette pub-là ?» Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est...
Même des pubs sur Internet, maintenant, quand on regarde YouTube, des fois, je dis « Ah, bah, c'est la voix d'Emilie. »
Voilà.
Alors, comment on fait pour avoir cette voix de la pub et comment on change de voix à chaque pub ? Parce que, mine de rien, quand on t'entend, on reconnaît ta voix, mais à chaque fois, il y a une intonation différente. Je pense qu'ils demandent des sonorités différentes, des sourires...
Oui, c'est de l'interprétation. Après, j'arrive à moduler ma voix. C'est quelque chose que je m'amusais déjà à faire quand j'étais petite. Je fais aussi beaucoup de voix d'enfants dans la pub aujourd'hui.
C'était une voix de tête,
ouais. Ouais, j'arrive à aller la chercher, cette voix d'enfant, parce que je m'amusais aussi à le faire quand j'étais petite. Et du coup, j'ai le truc. Je sais où aller chercher ça. Mais ouais, c'est du moment où tu crois, où tu ressens vraiment ce que tu as envie d'interpréter, et ben, en fait, on l'entend dans la voix. C'est la magie.
On va écouter un extrait musical et on se retrouve juste après. C'est quelque chose qui vient de rentrer en prog chez Graphiste. C'est Johan Papa Constantino et le titre c'est Bricolo. On se retrouve juste après.
Je pense les noms et la vitesse. Je vois couler l'eau que
Radio Graphite 94.9, www.graphite.net. Évidemment, on est disponible un peu partout maintenant, sur vos smartphones, sur vos box, sur vos smart TV. Et si vous ne nous trouvez pas, envoyez-nous un petit mail, on essaiera de mettre notre lien sur vos plateformes. Toujours en compagnie d'Émilie Ramé pour parler de voix off, mais également de podcast. Vous saurez pourquoi on parle de podcast en fin d'émission. On revient un petit peu sur le métier de voix off. Tu as fait de la publicité, tu as pu faire également des voix, par exemple à Roland Garros en ce moment. On peut t'entendre demander d'éteindre votre portable.
Voilà, et tout le monde le fait.
T'as été invitée, est-ce que t'es invitée à ensuite aller écouter ta voix?
Non, il y a beaucoup de gens qui pensent que je reçois des shampoings L'Oréal ou de la purée mousseline, pas du tout.
Non.
Non.
T'as jamais reçu de... Ils te disent pas pour tester le produit?
Non.
C'est quoi les briefs que tu reçois quand tu enregistres une voix? Comment ça se passe? C'est juste le texte? Qu'est-ce qu'on te demande en fait?
Alors, quand mon agent m'envoie la convocation de la séance, donc j'ai l'adresse et l'heure de rendez-vous, j'arrive et je découvre le texte à ce moment-là. C'est extrêmement rare qu'on m'envoie le texte en amont. Bien sûr, je connais la marque pour laquelle je vais enregistrer avant. Et sur place, il y a toujours soit le client qui est là pour m'expliquer donc le brief, ou soit on a l'agence de pub et les créatifs, donc le métier que je faisais avant, pour me briefer sur l'intention, le ton à adopter et ensuite pour diriger au mieux la séance.
Aujourd'hui, tu peux donner aussi des conseils en tant qu'ancienne exécutante de publicité ou juste t'es là pour justement aujourd'hui recevoir les ordres?
Non, je ne me permets pas de... Et puis souvent, je ne dis pas qu'avant je travaillais dans la pub. J'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, on a encore du mal avec les triples ou doubles casquettes. Voilà, chacun dans sa case et tout se passera bien. Voilà, c'est mon petit secret.
C'est quoi ton métier aujourd'hui? Comment tu le définis? Est-ce que tu es...
Je suis comédienne.
Comédienne,
ouais.
Et la comédie, du coup, au cinéma, à la télévision, au théâtre, c'est...
Au sens large, ouais. J'ai fait beaucoup de cinéma.
C'est un lapsus.
J'ai beaucoup fait de théâtre. J'ai vraiment commencé par ça.
T'es à Avignon.
Voilà, plein de fois. Je suis très heureuse de l'avoir fait. C'est vraiment une super expérience. Et ensuite, j'ai mis un peu ça de côté il y a 2 ans. Après le Covid, en fait, 2-3 ans. Et aujourd'hui, j'essaie de me concentrer un peu plus sur tout ce qui est donc tournage face caméra. C'est ce que j'essaie de développer en ce moment, parce que la voix, ça roule et voilà.
Je me souviens plus comment t'étais au collège, t'étais plutôt timide ou...
Ouais. J'étais, alors...
Je me souviens que t'étais souvent en groupe, il y avait souvent un groupe de filles, vous étiez ensemble, mais je me souviens pas le rapport qu'on avait avec les adultes. Et toi, t'étais plutôt timide?
Ouais, j'étais plutôt réservée, on va dire, pas timide. Et dès l'instant où je sens que je suis dans ma zone de confort, oui, je suis beaucoup plus ouverte. Mais je me souviens quand... je sais plus, en sixième, il y avait eu un espèce d'atelier théâtre et j'avais déjà tâté du doigt ça et je m'étais sentie très à l'aise en fait. Dès l'instant où j'ai senti que dès l'instant où je rentrais dans un personnage, la timidité s'en allait et bim. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe sur scène quand je suis au théâtre, c'est que c'est génial, surtout qu'il y a les projecteurs donc on voit pas le public, vraiment je me sens libre. Et dès l'instant où la pièce est terminée, il faut dire aux gens de les remercier d'être venus, de laisser des critiques positif sur Bière et Duc, d'un seul coup, j'ai qu'une envie, c'est aller me cacher en loge. C'est fou, hein, c'est...
Ouais, il y a vraiment le personnage, en fait. Et puis aussi, il y a le décorum aussi qui fait le fait que, justement, tu parles de la lumière, le fait qu'on soit dans un studio radio, ce genre de choses. Ouais. C'est pas pareil que quand on a devant, je sais pas, 200, 300 personnes, 400
c'est
personnes.
Sûr,
alors que des fois, à la radio, ou même dans la pub, en tout cas dans la pub, c'est sûr, t'es beaucoup plus écouté que quand on est dans une pièce où il y a 200
final,
spectateurs,
ouais.
Quoi. Là aujourd'hui, c'est quoi l'évolution? Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu te vois encore dans la pub? Est-ce que tu n'auras pas l'impression de tourner en rond? Souvent les voix, on te demande un peu les mêmes voix. C'est quoi l'évolution plus tard?
Alors mon évolution, donc aujourd'hui c'est vrai que je fais beaucoup de voix de publicité. Je tends à m'élargir au doublage, donc de séries, de films. C'est quelque chose que j'estime ne pas faire encore assez à l'heure actuelle. J'aimerais faire du jeu vidéo également. Donc comme je disais, plus de cinéma, peut-être retourner vers le théâtre si un projet me séduit. Et j'écris aussi à côté. Donc le podcast, l'univers du podcast. Enfin, j'adore les podcasts. C'est un peu mes livres de chevet, quoi. C'est clairement ça. Et ouais, j'aimerais m'ouvrir à ça.
Tout à l'heure, on a fait une interview avec des élèves d'un collège de Nogent-sur-Oise. Tu leur disais que tu avais commencé quand tu étais petite, tu avais retrouvé des cassettes audio de quand tu étais petite en train d'imiter des radios.
Ouais.
D'écouter Max et le Star System.
Ah ouais, j'écoutais Max et le Star System. Et c'est marrant parce qu'il y a justement sur TikTok, je suis tombée sur Max. Il fait des lives, je sais pas si t'as déjà vu ou il diffuse de la musique comme ça. Et je le regardais et je me suis dit, mais je me revoyais, c'est dingue. J'étais au collège et j'écoutais en secret sous ma couette Max. Et comme il fallait que je m'endorme à un moment donné, je foutais la cassette en enregistrement et le lendemain, j'écoutais la rediff. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de travailler à la radio, en fait. Mais j'ai découvert quand même que bien en amont, bien avant Max, j'étais invitée chez une copine et elle m'avait dit « Oh, regarde, j'ai une cassette, on peut enregistrer dessus notre voix. » Je trouvais ça génial. En rentrant chez moi, j'ai voulu réessayer, sauf que ça marchait pas. Et je me suis rendu compte que sa cassette à elle, elle n'était pas faite pareil. Du coup, j'ai fait des petites boulettes de papier et j'ai rempli les petits trous de la cassette. Et là, j'ai réenregistré sur Dorothée. Et voilà. Et je disais que j'étais actrice de radio et je faisais des fausses pubs, je lisais mes livres à voix haute et en fait, je faisais le métier que je fais aujourd'hui.
On parlait de podcast au début de l'émission, puisque t'as créé un podcast qui s'appelle Le hasard n'existe pas, avec une découverte dans ta vie assez particulière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre assez folle, de cette, bah justement de ce hasard qui peut-être n'existe pas ?
Oui, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé en étant directrice artistique en agence de pub et on pourrait se dire que finalement bah, je me suis trompée de voix, c'est pas le métier que je fais aujourd'hui. Et finalement, j'ai bien fait d'y aller parce qu'un jour, par hasard, j'étais en train de travailler, mais je ne travaillais pas tellement. J'avais mon casque sur les oreilles, sans musique, juste pour pas qu'on vienne m'embêter en bossant. Et du coup, j'entendais les conversations de tout le monde. Et j'ai entendu une conversation entre deux collègues. Elles parlaient de leurs enfants et elles parlaient des groupes sanguins de leurs enfants, des compatibilités, des ressemblances. Et moi, je me suis mêlée de la conversation parce que j'ai toujours connu les groupes sanguins de tout le monde chez moi, sans raison particulière. Et moi, ça ne matche pas. Mon groupe sanguin ne matche pas avec celui de mon père et celui de ma mère. Du coup, je me suis mêlée à la conversation et elles m'ont dit que bah, si, c'est génétique en fait, il y a des correspondances. Bien évidemment, je suis allée voir mon ami Google et j'ai vu que, effectivement, mon groupe sanguin qui est AB n'allait pas avec le groupe sanguin de ma mère qui est A et mon père qui est O. A et O, ça ne fait pas AB. Mes parents ont divorcé quand j'étais plus jeune. J'ai jamais eu de doute par rapport au fait que mon père soit mon père ou ma mère soit ma mère. Mais c'est vrai que cette découverte m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'en ai parlé à ma mère et elle a fini par m'avouer qu'effectivement, comme elle avait du mal à avoir un enfant avec mon père, elle avait rencontré un homme un jour et elle s'est servie de lui pour avoir un enfant. Elle voulait juste un enfant et elle a absolument gardé aucun contact avec cet homme. Et elle a balayé le sujet en me disant que tout va bien, que j'étais en bonne santé, que j'avais une famille. Mais par contre, que c'était un secret, qu'il fallait le dire vraiment à personne et que c'est pas grave si on sait pas qui est mon père biologique. Moi, j'ai déjà une famille. Je suis restée comme ça pendant 5 ans avec ce secret, sans savoir qui pouvait être mon père biologique, ni même où, ni même qui j'étais moi au final, parce qu'on parle de racines. Et 5 ans après, par hasard, pile au moment d'ailleurs où je changeais de métier, où je lâchais mon métier de la pub pour être comédienne, j'ai reçu un message sur Facebook d'une jeune fille, d'une ado, qui m'a demandé de confirmer le prénom de ma mère et ma date de naissance. Alors au-delà de la bizarrerie du message, c'est surtout quand j'ai vu son visage en fait que j'ai été choquée parce qu'elle avait exactement la même tête que moi quand j'étais ado. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait vraiment. Et ça s'est confirmé. On s'est appelé, j'ai eu sa mère au téléphone qui m'a dit que son mari, qui est donc mon père biologique, lui a toujours dit croire avoir une fille mais il n'était pas sûr parce qu'il était jeune. Et elle, cette femme, m'a dit « Moi, je veux pas que les enfants soient perdus dans la nature. On n'abandonne pas les enfants, donc dis-moi ce que tu sais. » Et il se souvenait du nom de famille de ma mère et c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvée sur Facebook. Et ce qui est fou, c'est que bon, bah, j'ai gagné donc 5 nouveaux frères et sœurs. Je suis tombée dans une famille qui est de confession juive. Moi, j'ai absolument...
Alors, on va aller doucement, comme ça on pourra faire un peu languir le... justement, parce que tu découvres une nouvelle famille, mais également une nouvelle religion, une nouvelle culture, etc. On va pouvoir en parler au cours de l'émission. Mais un peu pour les auditeurs qui se posent la question, là, qui sont peut-être dans leur voiture et qui se disent, c'est quoi les correspondances entre les rhésus ? Alors, docteur Ramé, expliquez-nous...
Alors, je ne suis pas médecin, ok ? Il y a des histoires... Moi, je peux juste parler de mon cas. Parce que j'ai beaucoup cherché dessus. Donc je suis AB. Ma mère est A et celui que je pensais être mon père est O. Donc A et O, ça ne fait pas AB. Pour faire AB, il faut qu'il y ait les allèles A et B. Okay. Donc si ma mère est A, mon père pouvait être soit B, soit AB. Voilà.
Okay. Pas de O, c'est pas possible.
Non.
Et donc c'est comme ça que tu l'as découvert. C'était un peu, c'était quoi ? C'était un monde qui s'écroule autour de toi. C'était ouais. des questions. En plus, dans le podcast, tu racontes que tu vas voir un merveilleux pharmacien à qui tu poses des questions,
ouais.
Mieux que Google, mais oui. par contre qui met les mêmes formes que Google, quoi.
Exactement. Il était, en fait, déjà, je m'étais dit, je vais m'adresser à quelqu'un du métier pour au moins être sûre de ce que je pressens. Et je me souviens avoir essayé de poser ma question comme si je demandais une boîte de Doliprane, parce que, mais à l'intérieur de moi, c'était un tsunami déjà, et je retenais vraiment les vagues. Et lui, il m'a dit « Ah oui, oui, si votre père est O, ça marche pas, votre père, il est B ou AB, merci, au revoir. » Et vraiment, je comprends pas à quel moment il s'est pas dit que ma question, elle était orientée, très personnelle ouais. et orientée, et qu'il fallait mettre des pincettes, et voilà. Et à ce moment-là, donc, ce que je décris dans ce que j'ai écrit, c'est typiquement l'image des immeubles qui s'écroulent d'un coup, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps, en fait, c'est...
Et pendant les 5 ans où ta mère t'a dit que oui, ton père n'était pas ton père biologique, avant que ta demi-sœur te retrouve, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je vais voir mon père qui m'a élevé ? En plus, non, c'est même pas ton père qui t'a élevé, puisque t'avais un beau-père, c'est ça ?
Ouais, hein ? Ma mère s'est remariée, ouais. J'ai un beau-père.
Du coup, comment ça se passe ? Comment on réagit par rapport à ça pendant 5 ans ?
Pendant 5 ans, alors bizarrement pas trop, en fait moi comme j'ai jamais été très proche de mon père sans être fâchée avec lui, il y avait une partie de moi qui était quand même un peu qui fantasmait quelqu'un d'autre en me disant ok c'est pas grave, on n'est pas très proche mais il y a quelqu'un d'autre ailleurs.
C'était pas la figure paternelle quoi.
Voilà exactement. Il n'y a pas eu de séance de psy, mais je me souviens que comme ma mère a gardé ce secret extrêmement longtemps, dès que j'essayais de lui en parler, elle était dans un déni qui fait qu'un jour ça m'a blessée plus qu'un autre. Et là, j'ai tapé sur Internet « Sophrologue Paris ». Parce que je ne voulais pas faire des séances de psy, je n'ai pas le temps, en fait, c'est très long, voilà. Et donc, c'est comme ça que pendant un an, j'ai vu une sophrologue. Alors, on n'a jamais fait de sophrologie, on a parlé pendant un an du secret de famille. Et puis, au bout d'un an, elle m'a dit « Bon, bah, tout va bien, salut ». Et un an après, c'est comme ça que je suis retournée la voir pour lui dire « Ils m'ont retrouvée ». Donc là, c'était même pas une séance. Enfin, je l'ai payée, mais c'était plus, elle voulait les ragots, quoi, en fait.
Et l'entourage, les amis, comment est-ce que tu les mets dans la confidence au départ ? Comment, du coup, ta première sœur, ta demi-sœur... En fait, t'as que des demi-sœurs, en vrai.
Oui, mais même si, pour moi, la première, c'est ma sœur. Ouais. J'ai grandi avec elle. Je dis toujours, c'est ma sœur, quoi. Elle est dans la confidence dès le départ, parce que quand j'entends cette conversation sur les groupes sanguins, c'est tellement inédit qu'il faut que je raconte à quelqu'un. Bien sûr. Sur ça, elle, en fait. On mène l'enquête à deux, et donc, ouais. Et par contre, pour mes amis, j'avoue que j'étais un peu plus pudique. Il y avait une espèce de honte, bizarrement, d'avouer que mon père n'était pas mon père et que je savais pas qui était mon père. Alors que j'étais même pas responsable de ça, mais voilà ce qui s'est créé en moi.
Et sur le physique, sur le fait que tu sois blonde, que t'aies les yeux verts, ta sœur, elle est différente, elle est brune aux yeux marrons ?
Elle est brune aux yeux marrons, les cheveux raides. On ne se ressemble en rien. Vraiment, moi, j'ai tout pris du côté de mon père biologique. C'est fou.
Et quand tu étais petite, tu lui disais qu'elle était adoptée ou pas du tout ?
Non, mais en fait, c'est marrant, c'est que j'ai deux cousines qui, elles, sont vraiment sœurs. Il y en a une qui est blonde et une qui est brune. Elles ne se ressemblent pas. Donc, quand j'étais petite, je me souviens que je disais, bah oui, elles non plus, elles ne se ressemblent pas, en fait. Il n'y a pas de règle. Et moi, ma mère, je disais, j'ai les cheveux bouclés. Elle me disait, mais oui, mais ta grand-mère aussi. Mais ma grand-mère, elle se fait des permanentes.
Alors, pas toi.
Non.
On va réécouter un extrait de la programmation. Là, on part en direction le Brésil et on se retrouve juste après. N'hésitez pas, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera évidemment podcastable, www.graphite.net. Et puis, on a un compteur de likes dans le studio. Vous pouvez aller liker la page Facebook de la radio. On est également présent sur Instagram, sur TikTok un petit peu, et également sur LinkedIn. Et puis, Facebook, on vous l'a dit tout de suite, on écoute Joa Selva. On se retrouve juste après.
Canarinho da Alemanha, Rouxinol e Sabiá, Verdilhinho, Acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Como pode o passarinho viver preso na gaiola?
beija-flor pra pacapim, assanha-se pra geô, grau na caboclinho, já não vejo mais nenhum, como pode o passarinho viver preso na gaiola. Sem roubar nem matar, o pobre foi condenar. Mesmo assim ainda canta, som preto, canário pardo. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Piriquito, patativa, curió e azulão, ex-chechel da bananeira, lá no alto do sertão. Como pode o passarinho
Et maintenant, continuer avec un morceau, je suis pas responsable, la BO de Taxi, un morceau des années 99 à peu près. Et voilà, c'est Émilie qui l'a choisi.
Check ma routine, rouler en rime. Mais ça, ici là, elle assise là. Mets-moi dans le Mia, des bonnes carines, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, les heures pour elle. Au volant de ma Banks, mère, pour flamber mes ailes. S'fout de tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, mon, dis-moi où on va.
Nulle part si tu continues à flamber ainsi.
Minute, j'dis un truc que tu as peut-être mal saisi, tu es pas d'ici.
Non.
Tu sais, chez toi, j'sais pas comment que c'est. Mais ici, on est plein de manie. Type, comment j'fais? Tu veux que j'lève mes lunettes, que j'mette plus le coude dehors? Que j'arrête de râler, pouces sont moins forts. Si j'fais l'effort, j'ai pas de garantie pour autant. Volons à fond de cinquième, j'suis dans mon cinquième élément.
Tu me plais,
je sais, allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit.
J'aurais jamais cru comme ça.
Qui moi?
Tu me plais.
Ah ouais, vas-y, monte pas de chichi, dis-moi où on va.
L'aventure est si belle.
C'est vrai.
Se balader dans la rue, dans ta voiture, baby, me donne des ailes.
Uh-huh.
Mais tu sais, ton délire te causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Baby, quand tu roules, tu mécaniques, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières, c'est payer trop cher.
Fais quoi là, tiens un peu de temps là, grimpe à l'air.
Si tu te la plais trop, je préfère le métro.
Je sais, allez, monte dans ma caisse, baby, après on voit.
J'aurais jamais cru comme ça.
Qui moi?
Tu me plais.
Ah ouais, vas-y, monte pas de chichi, dis-moi où on va.
J'aurais jamais cru comme ça. Tu me plais.
Et voilà, Tu me plais, extrait de la BO Taxi, c'était en 98 exactement, c'est un choix d'Emily Ramé qui est mon invité ce matin. Et d'ailleurs, cette compilation, hein, si vous l'avez en vinyle, elle vaut aujourd'hui, elle coûte un peu d'argent, hein, environ aux alentours de 200 euros. Donc si elle traîne chez vous, hein, n'hésitez surtout pas. Et dans ce morceau-là, on peut retrouver un sample de François de Roubaix. François de Roubaix, c'est celui qui a fait les Chapi Chapeau. Donc voilà, dedans, il y a un petit sample. Donc pour ceux qui aiment bien les morceaux sampleurs samplés avec les originaux, vous pouvez retrouver dedans un petit morceau de, pas de Chapi Chapeau en tout cas, mais de François de Roubaix. On continue de parler du podcast Le hasard n'existe pas avec la suite. Tu nous as dit donc tu découvres une nouvelle famille, tout un secret de famille qui explose un petit peu. Et en plus de ça, tu découvres une nouvelle religion, parce que du coup ton père biologique est de confession juive. Et sauf que bah c'est pas juste ils te font venir pour boire l'apéro quoi, c'est ils t'apprennent tout quoi.
Exactement. Donc moi j'arrive là-bas, je ne connais rien de tout ça, j'ai juste vu la vérité si je mens comme beaucoup de monde.
Ce qui n'a rien à voir.
Non, mais un peu. Quand même, j'avoue qu'il y a notamment une scène mythique de la vérité si je mens, qui est un repas de Shabbat, qui est le repas du vendredi soir, comme nous on aurait notre roast beef du dimanche midi, où dans le film on peut voir toutes les anecdotes autour du verre de vin qui se passe de bouche en bouche et du fait qu'on ne doit pas parler à un moment donné, enfin plein de petites règles comme ça dans lesquelles j'ai été plongée lors de mon premier repas de Shabbat en fait. Et j'étais clairement dans un autre monde, sur une autre planète. Je suivais à la lettre tout ce qu'on me disait de faire. Je mangeais tout ce qu'on me disait de manger, trop. Et non, c'était incroyable.
Alors ça qui est marrant, qui est surtout super agréable dans ton podcast, c'est que du coup tu racontes cette histoire qui est quand même déjà assez dingue sur l'histoire de ta vie, sur le fait comment tu découvres ton paternel biologique. Et en plus de ça, dans l'histoire se raconte une autre histoire où là en fait il t'intègre totalement, tu as l'impression que c'est un petit peu comique parce que tu peux commettre des bourdes le moment où tu dois être lavé les mains, ne plus parler, aller sur la table où ils te jettent les bouts de pain, voilà ils font et tu découvres ce pain, comment il s'appelle ce pain?
La challah.
Il est super bon apparemment.
Incroyable, j'aurais dû t'en ramener. Oh là là, c'est un pain un peu brioché, je le conseille à tout le monde.
Et la première rencontre où ils appellent toute la famille qui est au Maghreb et puis on entend les you-you, c'est ça?
Exactement, au bout de 30 minutes, donc après avoir rencontré mon père biologique en chair et en os et toute sa famille. Ils ont passé plein de coups de fil en FaceTime, en Tunisie, en Israël. Mazel tov, on a retrouvé Émilie. Et moi, j'étais à l'intérieur. C'était un mélange d'émotions, de « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et en même temps, c'est génial. Et en même temps, enfin, plein de choses. Et je me dis « Je suis dans un film ?» C'est quoi ça?
C'est surprise, surprise.
Ouais, c'est ça.
Et justement, est-ce que dans les sentiments, c'est quoi ce moment-là? Tu te dis ça va trop vite parce qu'ils t'invitent, déjà ils t'invitent chez eux. Tu te rends compte qu'il a une boutique de serrurerie qui est en face de l'école que tu as fréquenté, une école de théâtre. Comment ça se bouleverse un peu dans ta tête? Parce qu'après 5 ans de secret, là c'est un peu cette délivrance, mais qui n'est pas vraiment une délivrance parce que finalement tu ne le dis pas à ta mère.
Ouais, il y a un truc où je me dis, ok, tout finit par arriver. C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qui, selon moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ça va très vite. Effectivement, j'en parle pas à ma mère au début parce que je me dis qu'elle est trop impliquée dans ce secret et qu'elle a du mal à le digérer, vu que pendant ces 5 premières années, elle ne m'a pas vraiment accompagnée à porter ce secret. J'essaie de tout encaisser. Il m'invite en vacances, il m'emmène en Israël. Moi, je cache tout ça. Je me mets à tout cacher sur les réseaux sociaux, à tous mes cousins, cousines, oncles et tantes, à me dire « Ah oui, ça, c'est un copain de mon cousin qui connaît. » Enfin, ça devient trop au bout d'un moment.
Ouais, tu participes également à un projet sur un peu la jumélité, en fait, sur des photos où on prend la photo de ta demi-sœur et ta photo qu'on se sépare en deux et qu'on les colle. Et on se rend compte que finalement, ça match quasiment, vous avez le même visage. Ouais. Ça, pareil, tu le caches aussi à ta famille première.
Ça, je le cache. Je rencontre donc ce photographe qui s'appelle Inanis, qui a un projet qui tourne encore, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, sur la génétique, où effectivement, il prend des portraits de deux personnes d'une même famille, mais pas forcément des frères et sœurs. Ça peut aller de l'arrière-grand-mère à l'arrière-petite-fille. Et bim, il fait correspondre chaque moitié de visage et on se rend compte qu'il y a forcément un trait commun et c'est assez hallucinant. Et suite à ça, une femme, Marie, me contacte et elle a un site internet qui s'appelle Bande de Bâtards où elle recueille des témoignages de gens qui ont ce genre d'histoire, parce que mon histoire, elle n'est pas unique en soi, il y en a des tas comme ça. Et je témoigne pour elle, mais sous un faux nom. avec une photo qui est brouillée, on ne me reconnaît pas, parce que j'ai cette peur de la découverte du secret qui, au final, ne demandait qu'à sortir.
Et ta mère, maintenant qu'elle le sait, comment elle le vit? Elle a écouté le podcast, et c'est quoi un peu la relation que vous avez aujourd'hui sur cette histoire?
La relation, ma mère donc sait qu'ils m'ont retrouvée, connaît toute l'histoire. J'ai l'impression que ça l'a apaisée, qu'elle a plus de facilité à en parler avec moi. Après le podcast, on n'en a pas parlé ouvertement. Moi, je suis assez pudique sur le podcast, c'est-à-dire que si on vient m'en parler, j'ai aucun problème à discuter de ce sujet. Mais je vais rarement aller vers les gens pour dire « Hey, j'ai fait un podcast, écoute, machin ». Parce que bizarrement, oui, c'est une histoire très perso. Oui, je la raconte publiquement, mais ça reste un truc personnel.
Ça pourrait devenir un film un jour ?
C'est ce que j'essaye de faire naître.
T'as déjà pensé à l'actrice qui pourrait jouer ton rôle ?
Oui, j'ai une idée, là, comme ça.
Qui c'est ?
Oups, elle est pas loin de moi, là.
Elle va penser à une grande star, à Gianni.
Par exemple.
Et de jouer son propre rôle, ça serait pas un peu bizarre ? Enfin, surtout que tu voudrais, j'imagine, réaliser le film ?
Non, je ne veux pas le réaliser spécialement parce que je pense que chacun son métier.
Ouais.
Donc c'est une histoire que j'ai déjà écrite. Donc c'est un manuscrit qui est encore en recherche de maison d'édition. Donc
d'abord faire un bouquin donc.
Oui, ou en parallèle. Donc ça déjà, ça a été comme une espèce de thérapie pour moi que d'écrire, de tout cracher sur le papier. Ensuite, le fait de le lire à voix haute, ce manuscrit, pour le transformer en version audio, ça a été à nouveau une seconde couche de thérapie, on va dire, pour moi, d'entendre les mots en fait et de prendre les réactions des gens aussi, la manière dont les mots résonnent sur eux. Et du coup, l'interpréter, pour moi, ce serait la couche finale. Et peut-être que c'est pas un film, peut-être que c'est un téléfilm, peut-être que c'est un seul en scène, j'en sais rien, ça peut prendre tellement de formes différentes. Et moi, ce qui me touche surtout aujourd'hui, c'est l'écho que ça peut avoir sur les gens. J'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit avec des histoires similaires, avec des secrets de famille, et qui cherchent un peu un parcours connecté pour...
Pour se libérer un peu.
Exactement. Hein.
Ouais, c'est toi qui vas devenir la psy des autres, quoi.
Peut-être. C'est moi la sophrologue.
Là, sur ta famille, sur tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, ils sont au courant comment ils le vivent ? Alors toi, comment tu le vis et comment eux le vivent ?
Alors, j'ai mis très longtemps à aller dire la vérité, à sortir ce secret.
Parce que t'en parles dans le podcast, justement.
Voilà, je raconte le moment où je finis par le dire, mais c'est mon corps qui me pousse à y aller, sachant que, je vous laisserai écouter le podcast, mais il se passe un événement dans mon quotidien qui fait que je suis obligée d'aller dire la vérité. Et donc, je décide par commencer par mes oncles et tantes, donc les frères et sœurs de mon père, celui que j'appelle papa en tout cas. Et pendant des années, je m'étais fait une montagne de leurs réactions. Et au final, ils accueillent la nouvelle avec tellement d'amour et de compréhension que ça me déstabilise. Vraiment, on se fait beaucoup de suppositions dans la vie de tous les jours et ça sert à rien, vraiment. Et je finis par mon père. Je crois que c'est l'épreuve la plus dure de ma vie, plus dure que l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, j'en suis certaine, de dire à son père qu'on n'est pas sa fille biologique. Et là, je tombe de ma chaise. Je le dis ou pas ?
Ouais, tu peux le dire. Tu peux divulgâcher un peu la fin de l'histoire.
D'accord. Donc quand je lui annonce que je ne suis pas sa fille biologique, il me dit avec beaucoup de calme qu'il le savait. Et là, vraiment... Je suis scotchée parce que c'est un secret qu'on me demande de tenir depuis des années. Et surtout, je me dis, mais pourquoi mon père et ma mère m'ont menti depuis toujours ? C'est injuste, en fait. J'ai grandi dans le mensonge. Et donc, lui m'explique qu'il n'a jamais voulu d'enfant, en tout cas au début, parce que ma petite sœur est vraiment de lui. Et que du coup, quand il avait des rapports avec ma mère, il simulait ses rapports. Et ce qui fait que le jour où elle lui a dit « je suis enceinte », il a compris que c'était pas de lui, mais il a fait semblant, il n'a rien dit. C'est grand jeu d'acteur, je pense que...
Ça vient de là, donc...
Ça vient de là, ouais, c'est sûr.
En plus, t'aurais pu avoir trois cadeaux à Noël, puisque mais t'aurais pu avoir ton père...
Voilà, celui que j'appelle papa.
Voilà, ton beau-père et ton père biologique.
Exactement.
Là, aujourd'hui, est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas faire un repas avec tous ces gens réunis, ou c'est illusoire ? Est-ce que peut-être que quand toi, t'auras des enfants, ou peut-être que t'en veux pas, mais est-ce que tu penses que c'est la passation, et est-ce que c'est un secret qui sera gardé ? Est-ce que toi, c'est un secret ?
Ah non, j'ai choisi de dire la vérité.
T'as fait un podcast déjà, c'est
oui,
un peu
voilà.
compliqué de le...
Et j'ai choisi de dire la vérité parce que je veux pas transmettre ce secret. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent même de manière invisible. Je voulais couper ça la ligne, dans la lignée, en fait. C'est important pour moi. Si un jour j'ai des enfants, je voulais pas mentir, dire « Ah, c'est ton grand-père, mais en fait, il y en a un autre, mais machin. » Non, pour moi, c'est important. Après, de là, faire un repas avec tout le monde, je sais pas si je suis prête à l'heure actuelle, en tout cas, non.
Là, aujourd'hui, après l'enregistrement du podcast, il y a une suite qui est en cours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que là, tous les épisodes sont disponibles.
Oui.
Sur
les plateformes audio. En tapant le hasard n'existe pas, mais il faut savoir que c'est une histoire que j'ai fini d'écrire il y a 2 ans et que depuis, enfin en 2 ans, il s'est passé beaucoup de nouveaux rebondissements que j'ai pas encore mis sur papier et il faudrait que je le fasse. Mais je veux pas écrire pour écrire. En fait, j'ai vraiment besoin de sentir que ce soit profond à l'intérieur de moi et assez fort pour que je prenne le stylo et le papier.
Tu notes pas des idées pour te souvenir ? Est-ce que tu récupères des matériaux, des billets
Si, j'ai une liste où je note des mots, comme ça, pour rien oublier. Mais après, le reste, en fait, je suis très instinctive. Quand j'ai écrit, en tout cas, toute la première partie que je raconte, je me suis vraiment reconnectée au moment. Et c'est pour ça que des fois, c'était compliqué d'écrire, parce que ça devenait éprouvant pour me reconnecter à l'émotion que j'avais eue sur le moment.
Là, aujourd'hui, tu vis sur Paris, mais également parfois en Italie, parfois tu vas en Israël. Pourquoi ce désir de partir à l'étranger, d'avoir une multivie ? Tu vis une personne différente à chaque fois ou c'est la même Émilie dans les 3 pays ?
J'aime être l'étrangère à l'étranger. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai jamais fait d'Erasmus et c'est un truc qui m'a toujours manqué. Depuis toute cette histoire, j'ai ce besoin d'élargissement, de liberté en fait. Et rester à Paris pour moi, c'est vraiment synonyme d'enfermement. Alors j'ai besoin d'y être pour mon métier, bien évidemment. Mais parfois, j'arrive à travailler à distance. Donc dès que je peux et que j'en ai les moyens, je me délocalise effectivement en Italie la plupart du temps. La vie est douce là-bas. Et en Israël aussi, un peu moins, mais je m'y sens aussi très bien. C'est deux terres en tout cas qui résonnent pour moi.
En plus, tu fais l'étranger, mais quand même tu t'intègres assez bien puisque tu essaies d'apprendre les langues, ouais. Ce qui est super important. C'est vrai que si on vit dans un pays pour échanger avec la population, il faut apprendre les langues. C'est quoi cette passion pour les langues ? L'italien, c'est la sonorité, le côté un peu sexy ?
Alors l'italien, moi j'ai fait allemand LV1, anglais LV2 et arrivé en première, je me suis dit mais j'en ai marre de l'allemand. Et on m'a dit, tu peux commencer italien. Et là, coup de cœur pour la langue. Donc finalement, j'en fais que 2 ans. Mais je continue à entretenir toute seule, okay. Même en allant de temps en temps en vacances ou quoi. C'est quelque chose que je fais par plaisir. Et voilà, pour l'italien. Et c'est quand même assez proche du français. Donc j'ai pas eu vraiment de barrière à apprendre la langue.
Et pour l'hébreu ?
L'hébreu, disons que c'est la découverte de ma nouvelle famille qui m'a mis sur la voie de la langue hébraïque. Et j'ai commencé pendant le confinement. Petite activité comme ça. Hein.
Activité de parisienne, hein, voilà. Parce qu'on a fait du jardinage.
Ouais, dans mon 30 mètres carrés, tu sais. Les cours d'hébreu, c'était bien plus simple. Donc j'ai adoré le côté challengeant de cette langue. Ça aurait été comme si j'avais appris le japonais ou le chinois au final. Déjà, il fallait
apprendre une nouvelle sonorité.
L'alphabet, les lettres, ça n'a rien à voir. Déjà, ça se lit et ça s'écrit de droite à gauche. C'est pas, rien à voir. Et une fois que j'ai commencé à décortiquer tout ça et à prendre des cours en ligne, j'ai trouvé un prof, un Israélien sur Paris. Et là, toutes les semaines, tous les jours, je travaille mon hébreu. J'adore ça, en fait.
T'as enregistré une pub en hébreu ?
Non, j'ai fait une maquette, une bande démo en hébreu pour pouvoir me vendre là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui habitent en Israël, mine de rien. Et après, comme en italien, j'ai mon accent français. Mais pourquoi pas si c'est pour vendre de la baguette ?
c'est vendeur en tout cas. Mmh. Alors en plus, si ton père biologique te retrouve, te reconnaît, du coup, tu peux avoir un justificatif de judéité,
c'est ça,
et aller plus facilement en Israël, un peu avec l'histoire de l'alias, c'est ça ?
Exactement. C'est quelque chose qui est possible en fait, parce que pour habiter en Israël, donc ça s'appelle faire son alia, et il faut qu'il y ait un des parents biologiques ou grands-parents biologiques qui soit de confession juive. Il faut que ce soit reconnu officiellement. Le test ADN ne fonctionne pas, ça je le savais pas en amont et j'apprends tout sur le tas, vraiment.
Donc il faut que ton père biologique te reconnaisse, ou ça en France ou
en Israël ? En France, y a pas de souci. Une adoption ou une reconnaissance de paternité. Alors j'ai pas creusé le sujet, mais il me semble que la reconnaissance de paternité à partir d'un certain âge, c'est plus trop possible.
Okay.
Voilà, sûrement une adoption, oui.
Et là, pour ta nouvelle famille, entre guillemets, comment ça se passe avec tes demi-frères et sœurs ? Comment eux, ils l'ont accueilli, d'accueillir une nouvelle personne ? Est-ce qu'ils ont été aussi ouverts que ton père biologique ? biologique et que ta belle-mère, je sais pas,
oui,
c'est quoi du coup
ouais. Pour moi, c'est Isabelle. Oui, tout le monde.
Parce qu'elle elle était aussi très, très accueillante.
Très
aussi
chaleureuse. C'est grâce à elle qu'ils m'ont retrouvée. Franchement, c'est elle qui a poussé à ce qu'on me cherche. Donc, ouais, c'est grâce à elle. Ils ont tous été, pour la plupart, très accueillants tout de suite. D'autres un peu plus sur la réserve. Et je les comprends. C'est normal, quelque chose aussi de bouleversant dans leur quotidien. C'était assez bizarre pour moi au début de me dire j'ai des frères, parce que comme j'ai grandi qu'avec une sœur, c'est pas une idée que j'arrivais à me faire. Et encore aujourd'hui, même si on s'entend bien ou quoi, c'est conceptuellement parlant, c'est bizarre pour moi de dire c'est mon frère, même si je sais que c'est mon frère. Il manque un bout dans l'histoire en fait, l'enfance.
Oui, et puis surtout, en fait, c'est ton frère, enfin, c'est pas un mot que tu es obligé d'utiliser. Quand c'est ta sœur ou ton frère, tu l'appelles par son prénom. Quoi.
Oui, mais même de me dire, encore avec mes sœurs, je peux me confier sur des sujets de sœurs, entre guillemets. Okay. Avec mes frères, j'ai un peu cette pudeur qui. J'ai pas l'habitude, en fait.
Et puis, il y a peut-être un côté sororité entre femmes, quoi.
Peut-être, aussi, sûrement.
On va écouter un extrait musical avant de se quitter. Il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble. On écoute, je crois que c'est Jean Jass, je sais plus. On va écouter ça. Ça s'appelle Un cadeau. Et on se retrouve juste après, c'est l'émission de la matinale et on est encore ensemble pendant un quart d'heure. Et donc c'est Caballero et Jean Jass.
Le facteur amène un cadeau. Un putain de cadeau pour ta gueule, hein. Je suis rentré dans elle, pas le t-shirt, mais dans ta femme. Ils ont la flemme, moi j'ai la fame, moi j'ai la dalle. Zéro étoile, je suis pas Mbappé, mais j'aime pas perdre. Le somme de Courtois sur les réseaux et les papiers. Je suis rentré dans le dur, je protège les petits frères à la Duchesne. Ça joue les victimes, mais ça va tout seul sur le bûcher. Dans mon quartier, c'est Walking Dead, j'évite les fans et les zombies. Les haines sont mille, mes poches sont pleines, les cerveaux sont vides.
Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, do, do, do. Un cadeau, do, do, do.
Rien de nouveau, rien de bien. Nada. Pas parti, mais je reviens. De rien.
Merci.
Je tiens à l'argent, mais
oui.
C'est pas lui qui me tient.
No.
Flinguer, c'est mon métier. Pas besoin que vous m'aidiez. Tous ces nullards sont à mes pieds. Avec ta paix. J'fais une pub pour des produits laitiers. On se fait pas chier ici. Et comme d'hab, j'hésite. Carrière de Jay-Z, Walter et Jesse. Pinkman, les yeux comme ce fameux moulin à Pigalle. Ou les deux joues de Pikachu, vos darons, les Big Man.
Un cadeau, le facteur ramène un cadeau. Un cadeau, le facteur ramène un cadeau.
Moi c'est Zinedine Zidane.
Mon meilleur ami c'est le postier.
Vos mamans sont sur Instagram.
Faites belle et qu'est-ce que vous postez.
Le prix de la coca coulée.
Ah bon?
Whisky, coca, cola. C'est mon sixième putain. Demain matin ce sera caca coulant. Je suis pas venu ici pour souffrir. Tant de désirs à assouvir.
Okay.
Pendant ce temps mes souffrifres m'envoient de l'herbe sous vide.
Okay.
Tu peux
okay.
pas nous vaincre. C'est incre. Un colis de Cali. Je suis refait comme Kylie.
Un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, do, do, do. Un cadeau, do, do, do. Un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, un cadeau. Le facteur ramène un cadeau, un cadeau, do, do, do. Un cadeau, do, do, do.
Caballero, non c'est pas ça du tout, voilà, Jean Jass et Caballero, pardon c'est un peu plus compliqué, c'est le matin, on se réveille doucement nous aussi, avec ce morceau, un cadeau, et d'ailleurs on a pu les voir à l'Imaginarium Festival, j'espère que vous aussi vous avez été à l'Imaginarium Festival danser sur This Is, et également la semaine dernière on a pu retrouver un concert assez exceptionnel de Max Romeo qui a eu lieu mercredi dernier, avec donc Max Romeo qui termine ses tournées françaises et également mondiales, puisqu'il va se consacrer uniquement uniquement au studio, 78 ans, franchement c'était vraiment très bien. Et d'ailleurs l'association qui organise va reproposer un concert au mois de novembre prochain, donc restez branchés, il y aura plein d'infos et c'était cool, on était à peu près 600 et on a offert des places et j'espère que vous avez vous aussi bien kiffé. Toujours de retour avec Émilie Ramé pour parler d'abord du métier de voix off et d'actrice de voix off, mais aujourd'hui aussi pour parler de son podcast qui s'appelle Le hasard n'existe pas, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Là, la suite, tu nous parles un petit peu de l'écriture. Est-ce que tu penses qu'il va te falloir une année, deux années? C'est quoi? Il te faut un peu digérer tout ça?
Oui, je pense qu'il va me falloir encore un petit peu de temps pour le digérer et surtout que je ne vais pas pouvoir écrire chez moi. On parlait tout à l'heure hors antenne de l'importance des résidences et j'ai besoin d'être à l'étranger, je pense ailleurs, tranquille, sans être parasitée par mon quotidien, pour me replonger dans l'histoire et réécrire.
Quand t'écris déjà pour, tu penses déjà à l'oralité, à la musicalité des mots, parce que c'est vrai que quand on écoute le podcast, on voyage, tu nous fais un peu ressentir les odeurs, la chaleur du soleil, ce genre de choses par rapport à ta voix. Est-ce que toi, quand t'écris pour l'oral ou t'écris pour l'écrit tout simplement?
Non.
Choses différentes.
J'ai écrit pour écrire. J'ai vraiment pas cherché à faire forcément des belles phrases. J'ai vraiment ce que j'ai lu, en tout cas dans mon podcast, c'était presque mon premier jet en fait. Après, bien sûr, quand il y avait des redondances, j'ai retravaillé. Mais beaucoup, souvent, ça m'est arrivé de me relire en me disant wow, c'est moi qui ai écrit ? Il y a vraiment un truc de possession, comme ça.
Donc tu rentres en transe et puis
c'est
des pages, ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a relu ce texte? Comment tu fais pour l'envoyer aujourd'hui? Est-ce que tu l'as fait relire par un professionnel du cinéma ou quelqu'un qui se dit, en fait, vas-y, il faudrait peut-être retravailler ce truc-là pour que ce soit plus vendeur pour le ciné, pour la télé?
Non, pas pour le moment. J'attends de rencontrer cette personne. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Au début, quand j'ai commencé mes recherches de maison d'édition, je l'ai fait relire à 4-5 amis, pas plus, parce que quand on a trop de retours de gens, on ne sait plus dans quelle direction aller. C'était surtout pour les fautes d'orthographe, en vrai. Et voilà. Et aujourd'hui, oui, je suis prête à retravailler mon texte en gardant ma patte si quelqu'un est vraiment intéressé dans ce sens.
Là, aujourd'hui, c'est combien d'écoutes ce podcast?
J'ai regardé hier, je pense qu'on en est à presque 30 000 écoutes. J'ai commencé au mois de novembre, sachant qu'à part mon compte Instagram ou TikTok, j'ai pas eu beaucoup plus de coups de pub que
ouais,
ça.
Ouais, c'est vraiment ton premier cercle, en
ouais,
gros, là, aujourd'hui,
ça.
Les écoutes. Quoi.
Mais comme je vois que ça buzz pas mal, même avec ce petit cercle, c'est pour ça que je crois à la suite du projet, en fait.
Bien sûr. Et c'est quoi les accompagnants dans ce... Parce que là, aujourd'hui, tu participes à des podcasts, genre à des lectures, ce genre de choses. C'est quoi un peu le milieu du podcast aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a toujours un marché que c'est de se faire. Souvent, c'est la publicité qui paye les créateurs de contenu. C'est quoi un petit peu aujourd'hui, toi, ta vision notamment du livre audio, par exemple?
Alors, moi, j'ai tout fait à la maison, toute seule. Mais j'ai la chance de travailler régulièrement pour Binge Audio, ils produisent beaucoup de podcasts donc j'ai l'impression que c'est un média qui tend vraiment à se développer. En ce qui concerne le livre audio, je pense que c'est un autre milieu qui fonctionne déjà bien avec Audible notamment. Ma vision, c'est que c'est, je pense, des médias qu'on va entendre de plus en plus, avec un public de plus en plus large. Nous, on est des générations, on a l'habitude d'écouter des podcasts, mais par exemple, mes parents ne savent même pas ce que c'est.
Ouais, bien sûr.
Et on va y venir, je pense.
Oui, il y a une marge de progression qui est indéniable. Et du coup, la différence entre le podcast et le livre audio, puisque là, vu que tu l'as écrit en livre, est-ce que pour toi, c'est un podcast ou le podcast, tu parles plus à quelqu'un en individuel, c'est plus la confidence? Et le livre audio, c'est tu lis ton propre livre, enfin en l'occurrence pour toi. C'est quoi la différence pour toi là aujourd'hui?
C'est vrai que je l'ai lu comme si c'était un livre audio, mais je l'ai découpé comme si c'était un podcast. C'est-à-dire que j'en ai fait plein d'épisodes. Parce que pour moi, c'est un récit qui est épisodique. Tout s'est pas passé du jour au lendemain. Il s'est vraiment passé des années, du temps. Et à terme, j'aimerais que le projet évolue en des discussions, des rencontres, des interviews autour de ce thème central du secret de famille et de l'identité. J'aimerais que ça prenne cette forme-là, ouais.
Là, aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu travailles sur un manga. Tu as pu en parler avec les élèves tout à l'heure. Ils étaient très contents d'apprendre que tu faisais une voix de manga. Sur quoi tu bosses en ce moment?
Alors, en ce moment, oui, je fais un peu de doublage sur ce manga qui s'appelle Love is a War. Je continue donc de diffuser mon podcast et je me penche à l'écriture d'un dossier pour les boîtes de production parce que j'aimerais que ce soit à l'antenne prochainement. J'essaie de relancer la machine et toujours beaucoup de voix publicitaires, notamment une voix pour Haribo qui arrive prochainement.
C'est quoi comme bonbon ?
C'est les Dragibus.
Tu peux pas leur demander qu'ils nous en envoient ?
Ah, j'aimerais.
Bon, c'est la fin de l'émission. Le dernier morceau, bah, il te revient. On a pris le sens de la famille. Donc, c'est Grand Corps Malade et Léa Becti. Merci beaucoup d'être venu dans les studios aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé au projet pédagogique avec les scolaires donc de Nogent-sur-Oise. On espère te retrouver peut-être, pourquoi pas, pour une écoute au cinéma. Ça peut être intéressant de faire étude collectif. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez évidemment la podcaster, disponible sur le www.graphite.net. Retrouvez le podcast d'Emilie sur internet, hein, lehasardnexistepas.fr, où dessus vous pouvez cliquer. Vous pouvez également retrouver ses bandes démos. Je sais pas si vous avez des spots à faire ou ce genre de choses, vous pouvez la contacter. Si vous avez des spots et que vous voulez en diffuser à la radio, vous pouvez également nous en commander. On peut vous en vendre si vous avez une actualité. Et d'ailleurs, avant de se quitter, les actualités culturelles, il y aura notamment la 7e nuit des concerts au festival, donc c'est à Port-Quéricourt, avec les Fatal Picard et des groupes de reprises. Ça sera le 30 juin et le 1er juillet, donc dépêchez-vous d'aller acheter vos places. L'année dernière, c'était complet. Il y a également une journée festive à la Pièce en Plus, qui est une espèce de tiers-lieu à Trolley-Breuil. Ça sera le 24 juin 2023. Le Festival des Forêts qui va commencer le 26 juin. Et ensuite, également, il y aura des brocantes. Enfin, il y a pas mal de choses. Allez faire un tour sur la page Facebook de la radio pour retrouver toutes les informations. Merci, Émilie. Bon après-midi et puis restez-nous fidèles, à très bientôt.
Salut.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris. Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement...
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Pose-toi bien, ma chérie. À bientôt, je serai passé.
Ça me rappelle, s'il te plaît.
Bonjour, parrain. Merci pour le cadeau.
à manger, vas-y viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive, bisous.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot mercredi.
Rends-le-vite, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour
toi. C'est cool, passe, mon ref.
D'abord, on va à la séance de 19h30 et après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?